VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel, 18 personnes dont plusieurs étrangers ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi lors de l'attaque par des djihadistes présumés d'un café-restaurant de la capitale burkinabé Ouagadougou. L'attaque a été lancée dans la soirée par au moins deux hommes armés qui ont ouvert le feu sur les clients du restaurant Istanbul sur la grande avenue Kwame Nkrumah de la capitale burkinabé. Les opérations des forces de l'ordre contre les auteurs de l'attaque retranchée dans le café situé à quelques dizaines de mètres d'autres établissements attaqués de la même manière en janvier 2016 a duré toute la nuit. Le président de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, a condamné aujourd'hui l'attentat ignoble en assurant que le Burkina Faso se relèvera de cette épreuve car son vaillant peuple opposera une résistance sans concession au terrorisme. La lutte, la Cour pénale internationale doit rendre jeudi l'ordonnance de réparation pour la destruction des mausolées de Tombouctou par un djihadiste malien, un jugement dont l'exécution pourrait bien être une gageure pour le fonds au profit des victimes. Le Touareg d'une quarantaine d'années, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, a été condamné en septembre à 9 ans de prison pour avoir dirigé intentionnellement des attaques en 2012 contre la porte de la mosquée Sidi Yaya et contre 9 des mausolées de Tombouctou au nord du Mali. L'ordonnance de la CPI a également le potentiel d'apporter de l'espoir aux victimes de crimes similaires commis dans d'autres parties du monde, comme la destruction de Palmyre en Syrie et d'autres sites historiques en Irak par le groupe État islamique. Toujours au Mali, l'ultimatum de la plateforme Anté-Abana touche pas à ma constitution au président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle donne jusqu'au 15 août 2017 à minuit pour retirer son projet de réforme constitutionnelle, faute de quoi elle se lancera dans une campagne de désobéissance civile. Tibilé Dramé, président du Parena, membre de la plateforme Anté-Abana.
Nous considérons que l'ordre républicain est menacé quand le président de la République viole la Constitution. Et en violant la Constitution, il viole son serment. Parce que dans son serment, il jure devant Dieu et devant le peuple malien de respecter et de faire respecter la Constitution. Alors, en initiant une révision constitutionnelle qui viole l'article 118 de la Constitution, le chef de l'État viole son serment.
Tibilé Dramé, membre de la plateforme Anté-Abana au Mali. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'apprête à lancer la nouvelle carte d'identification des ressortissants étrangers. Il s'agit de la carte de résident prévue pour ce lundi. La cérémonie de lancement de cette carte a finalement été reportée sine die à Abidjan. Les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Toukara.
Pour le directeur général de l'Office national d'identification, l'ONI, la nouvelle carte biométrique de résident devrait permettre à la Côte d'Ivoire de mieux planifier ses politiques de développement à travers une bonne connaissance des flux migratoires. Konaté Diakaridia.
La Côte d'Ivoire s'est engagée actuellement à moderniser son administration, à moderniser sa vie économique. Donc il y a des actions à poser au préalable. Et parmi ces actions majeures, c'est la maîtrise du flux de l'immigration, le déplacement des personnes à travers le territoire. Il est important pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui de le maîtriser en vue de faire une bonne planification de nos équipements collectifs, une bonne planification de nos infrastructures économiques. C'est d'avoir des données exhaustives sur ceux qui vivent sur notre territoire, qui sont-ils, d'où viennent-ils et quand comptent-ils retourner dans leur pays ou est-ce qu'ils comptent rester définitivement dans notre pays. C'est l'objectif de la carte de résident.
La nouvelle carte de résident va coûter 300 000 francs CFA pour une validité de 5 ans et s'appliquera à tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, à l'exception des ressortissants de l'espace CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Konaté Diakaridia, directeur de l'Office national d'identification.
Les citoyens de la CDAO ne sont pas concernés par cette carte parce que nous sommes tenus par des protocoles communautaires de la CEDAO et le gouvernement en 2007 a fait prendre une ordonnance pour supprimer la carte de séjour parce que nous sommes dans un espace communautaire. La Côte d'Ivoire est l'un des leaders de cet espace communautaire. La Côte d'Ivoire voudrait servir d'exemple à cette libre circulation. Mais en même temps, libre circulation ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas connues de notre administration.
La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus ouverts au monde. Plus de 6 millions d'Ouest-Africains vivent sur le sol ivoirien pour une population totale estimée à 23 millions d'habitants. Pour ce jeune Nigérian rencontré dans la commune de Yopougon, ne pas avoir à payer cette carte de résident est une bonne chose. Et cela montre bien que l'intégration ouest-africaine est une réalité.
C'est bon parce qu'on ne fatigue plus maintenant. Comme avant, on est libre, on fait les activités tranquilles. Tant qu'on nous arrête, une fois qu'on présente le cas d'identité, et puis on nous laisse en patte, c'est bon.
Selon l'Office national d'identification, plus d'un million de ressortissants étrangers sont concernés par cette carte de résident. Une carte qui devrait également permettre à la Côte d'Ivoire de lutter efficacement contre la fraude sur l'identité. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au moins deux officiers de l'armée congolaise ont été tués dans de violents affrontements avec des présumés rebelles ougandais près de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué aujourd'hui l'armée. Nous déplorons la mort de deux colonels tombés lors de ces attaques surprises. Des ADF a déclaré à l'AFP le capitaine Makazukai, porte-parole de l'armée dans la région, qui dressait le bilan provisoire de combat du week-end. Les attaques de trois positions des forces armées de la RDC par des rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques alliées, ADF, dans la région de Beni ont commencé samedi, suivies de la riposte des forces gouvernementales hier dimanche selon l'armée. En Centrafrique, le président Faustin Akanji Touadéra hausse le ton contre les groupes armés lors d'un récent voyage en Centrafrique. Stéphane O'Brien, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, a déclaré que les signes avant-coureurs du génocide sont là. À l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du pays, le 13 août, le président centrafricain s'est fait plus menaçant.
On ne pourra jamais construire un pays dans l'insécurité. Je demande donc aux responsables des groupes armés d'arrêter toutes les hostilités, conformément à leurs engagements. À tous ceux qui pensent qu'ils ont obtenu le droit de tuer les Centrafricains et les éléments de la MINUSCA, venus nous aider à sortir du chaos. À tous ceux qui estiment qu'ils ont trouvé un métier, celui de piller les ressources du pays, de détruire les biens publics et privés, d'incendier des maisons d'habitation, de voler les bétails, je leur dis que le train de la justice va arriver. Quoi qu'il arrive, la justice sera implacable.
Faustin Akanji Touadéra, le président de la RCA. La vie a repris timidement aujourd'hui à Nairobi. Les sympathisants de l'opposition kényane ayant été priés de rester chez eux par leur leader Raila Odinga, qui réfléchissait à la marche à suivre pour mieux s'opposer à la réélection du président Uhuru Kenyatta. En signe de deuil pour les 16 personnes, dont une fillette de 9 ans tuée dans les violences survenues entre l'annonce de la victoire de M. Kenyatta vendredi soir et samedi soir, M. Odinga a demandé à ses partisans de ne pas travailler aujourd'hui et d'attendre qu'il annonce sa stratégie demain mardi. Rosine Monezero.
Sorti de son mutisme qu'il observait depuis l'annonce des résultats vendredi soir, Raila Odinga a promis hier qu'il ne renoncerait pas à contester la réélection du président sortant. Il devrait préciser sa stratégie demain mardi, mais il a écarté un recours devant les instances judiciaires, appelant plutôt ses partisans à ne pas s'aventurer dans la rue pour leur propre sécurité. Toutefois, M. Odinga était dimanche dans deux des bastions de l'opposition, Kibera et Matare, au milieu d'une foule qui scandait des slogans hostiles au pouvoir et rejetait le verdict annoncé par la commission électorale et apparemment corroboré par les observateurs internationaux. Le chef de file de l'opposition kényane a demandé à ses partisans de rester chez eux aujourd'hui en signe de deuil pour les victimes des violences électorales qui ont fait au moins 16 morts depuis vendredi. Les correspondants de presse ont signalé des affrontements violents hier, mais ces incidents ont été circonscrits dans les quartiers favorables à l'opposition.
La Chine, principal soutien économique de Pyongyang, a annoncé aujourd'hui suspendre entièrement ses importations de fer, de plomb, de minerais et de produits de la mer en provenance de Corée du Nord en application des nouvelles sanctions de l'ONU. Il s'agit d'une mise en œuvre de la résolution onusienne 2371, a précisé le ministère chinois du commerce dans un communiqué. Pékin, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, avait approuvé le 6 août une septième volée de sanctions économiques internationales contre la Corée du Nord. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francis. Bon après-midi à tous sur le continent.
voyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.